à l'est du Belarus, à la frontière avec la Russie.
Pour nous, nous avons une région de Belarus.
Escuchen Radio Belarus.
220807, Minsk, République Belarus. Sie können uns außerdem in den
Если вы спросите, что такое Беларусь, ответим, что это страна, которую возьмут.
Приезжаешь, они очень тепло
встречаются
белорусов.
Прыгожая, поэтичная назва. Найлепшее означение для нашей краины.
C'est la radio Belarusse internationale de Minsk.
Des relations internationales et la sécurité, la géopolitique et des intérêts nationaux. Notre vision des problèmes actuels dans le projet Belarus dans la communauté mondiale.
Bonjour chers amis, bienvenue sur les ondes de la radio Belarus qui continue avec les émissions en français. C'est le projet Belarus dans la communauté mondiale. La première ministre lituanienne, Inga Ruginienė, a annoncé que la partie lituanienne a désigné un représentant pour mener des négociations politiques bilatérales avec le Belarus. La Lituanie pourrait organiser cette rencontre, mais Vilnius pose certaines conditions. Ruginienė n'a pas relevé qui participerait aux négociations du côté lituanien. Vilnius est-elle prête au dialogue ? L'analyste Anatoly Boyashov de l'Institut biélorusse d'études stratégiques a partagé son avis.
Литве необходимо продать переговоры своему собственному населению, тем политикам, которые традиционно зарабатывали свои очки на образе врага.
Le fait est que la Lituanie doit marquer une pause. La Lituanie doit vendre ses négociations à sa propre population, aux politiciens qui ont traditionnellement gagné leurs points sur l'image de l'ennemi. Les politiciens ont construit l'image de la Lituanie comme un État de première ligne et ils ont reçu pour cela de nombreuses subventions, y compris du budget de l'Union européenne. À mon avis, il leur est difficile maintenant de changer de position et de faire marche arrière. Parce que pour les mêmes camions, pour la même fermeture de la frontière, il faudra d'une certaine manière non pas rendre des comptes, mais au moins fournir des explications. Et si soudainement les négociations sortent de l'impasse, il faudra expliquer à sa population pourquoi vous avez adopté une position aussi compliquée auparavant. Oui, la Lituanie a bien renvoyé la balle dans notre camp, ou du moins, elle a essayé, car autant que je sache, les négociations avec le Belarus butent sur le facteur américain. Autrement dit, la Lituanie se réorganise et les États-Unis insisteraient pour qu'elle entame ces négociations. À mon avis, la position et la réaction qu'ont adoptée les Lituaniens actuellement, y compris le retard dans la nomination de ce représentant spécial, montre que pour l'instant, au moins, les États-Unis n'ont pas fait pression de manière significative sur les Lituaniens. Mais malgré tout, la Lituanie comprend qu'elle ne voudrait pas provoquer les États-Unis, qu'elle ne voudrait pas se fâcher ni avec Bruxelles, car les sanctions contre le Belarus ont été adoptées au niveau de l'Union européenne. Et ce ne sont pas seulement les États-Unis qui sont le principal investisseur en Lituanie. Il y a aussi la Suède et l'Allemagne. Pour cette raison, il n'est pas aussi simple pour les politiciens lituaniens qu'il n'y paraît de changer soudainement de cap, de passer de la confrontation aux négociations. Je pense que les États-Unis les y poussent, mais pour l'instant, à mon avis, ils n'ont pas fait pression fortement. Pour l'instant, on a eu que la déclaration de Kohl, quelques discussions disant que ce serait une bonne chose, et je pense qu'actuellement les Lituaniens prêtent attention à la rhétorique de Trump. Autrement dit, si Trump s'exprime très positivement sur le Belarus, ils passeront à un niveau de négociation plus élevé. Si Trump change sa position, ils feront marche arrière très rapidement. Le fait même qu'un poste de représentant spécial ait été créé, pour l'instant, d'un point de vue analytique, ne dit pas grand-chose. Parce que vous pouvez nommer à ce poste un franc biélorussophobe, vous pouvez nommer un biélorussophobe qui dira en public à quel point le Belarus est mauvais, tout en négociant en coulisses. Mais vous pouvez aussi nommer une personne sensée. Trois options sont possibles. Donc je le répète, le facteur américain est essentiel. Et pour l'instant, les Lituaniens agissent en conséquence. Ils analysent très attentivement, en premier lieu, la position des États-Unis sur cette question. La seule question est de se voir à quel point les États-Unis veulent et peuvent faire pencher la balance des intérêts. Une majorité qualifiée est nécessaire. Cela représente au moins 15 pays de l'Union européenne et ces 15 pays doivent refléter l'opinion de 65% de la population de l'Union européenne en bref. Et la Lituanie ne pourra pas, même si elle le voulait, résoudre cette question au niveau de l'Union européenne. Autre chose, il n'est même pas nécessaire de réviser les sanctions. Dans ce même régime juridique, il existe des dérogations aux sanctions. Il s'agit de l'aide humanitaire. Il s'agit également, si les livraisons d'un produit sanctionné visent à prévenir les situations d'urgence, à prévenir les menaces pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement. Il existe tout un ensemble de dérogations qui sont adoptées précisément au niveau national. Autrement dit, la Lituanie dispose techniquement et juridiquement de toutes les compétences, de toutes les possibilités pour activer ces dérogations. L'argument que les politiciens avancent actuellement, les sanctions sont au niveau de l'Union européenne, il nous faudra un an, est un écran de fumée. Ce sont des conditions qu'ils prétendent poser pour négocier sur les ballons, les migrants hybrides ou autres. Tout cela relève de la politique, ce ne sont pas de véritables négociations. Un autre point, bien sûr, comme je le disais, ils doivent vendre cette décision d'une manière ou d'une autre à leur population locale. Ils doivent montrer le caractère forcé de ces mesures. Mais en jugé par les réactions de la Lituanie, je pense que les États-Unis n'ont pas encore fait pression et n'ont pas insisté sur ce point. Le moment où ils insisteront, je pense que cela se verra dans les déclarations des politiciens lituaniens. Pour l'instant, la partie lituanienne a simplement essayé de renvoyer la balle, ce qu'on appelle en diplomatie. C'est-à-dire faire des déclarations politiques du genre « nous sommes prêts, mais pas vraiment », que les Biélorusses décident, mais nos diplomates ont très habilement paré cela. La balle est maintenant dans le camp lituanien. Je le répète, premièrement, la balle est dans le camp lituanien. Deuxièmement, la partie lituanienne dispose techniquement et juridiquement de toutes les possibilités pour activer les dérogations au niveau national. Troisièmement, la réaction des Lituaniens ne montre pas qu'ils sont réellement prêts à négocier. Pour l'instant, cela peut s'expliquer par la position des États-Unis, mais la position des États-Unis l'emportera-t-elle sur les intérêts de l'Union européenne ? La Lituanie pourrait se retrouver dans une impasse, car l'Union européenne et les États-Unis divergent actuellement sur de nombreux points, y compris sur le détroit d'Ormuz, y compris sur l'interaction avec la Russie. Il y a même des positions différentes sur les engrais, et la position qu'adoptera la Lituanie devra bien sûr être d'une certaine manière justifiée à Bruxelles. Les États-Unis peuvent-ils justifier cette position à Bruxelles ? Oui, ils le peuvent. Il existe à Bruxelles un puissant lobby agricole qui s'intéresse aux engrais et qui a prouvé à maintes reprises qu'il peut faire pivoter à 180 degrés de grandes transactions avec les acteurs externes. Ce lobby n'a pas été sollicité lorsque l'Union européenne a pris sa décision avec le Mercosur, avec l'Amérique latine. Ils étaient contre car cela nuit et pourrait faire concurrence à leurs produits. Nous verrons si, dans le cas du Bélarus, la voix des agriculteurs européens sera entendue.
Конкуренцию для их продукции. Ну, посмотрим, может быть, в случае Беларуси голос там фермеров европейских будет услышан.
Cette déclaration a été faite par Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre avec des journalistes. Il a indiqué que l'Ukraine était prête à discuter de tout format de trêve, un cessez-le-feu total, un cessez-le-feu dans le secteur énergétique, un cessez-le-feu dans le secteur de la sécurité alimentaire et énergétique, c'est-à-dire sur mer et dans les airs. Un cessez-le-feu total pour que ni missiles ni drones ne volent, pour ne pas frapper les infrastructures. À Moscou, on considère l'appel de Kiev à une trêve pascale comme une opération de relations publiques. C'est ce qu'a déclaré lors du point de presse la porte-parole officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Selon elle, Kiev a déjà prouvé à maintes reprises son incapacité à respecter ses engagements. C'est une énième tentative, la manœuvre préférée de Zelensky, une énième opération de relations publiques. Et elle ne lui est pas nécessaire par souci d'une paix durable, mais comme un énième geste sur les conseils de ses alliés européens et ouest l'Est européen afin d'obtenir une trêve dans 1 ou 2 mois dans le but de compenser ses pertes, de se regrouper et de préparer les forces armées ukrainiennes à poursuivre leur combat. Nous en avons vu de nombreuses confirmations, les preuves sont suffisantes. Si Zelensky était réellement intéressé par la fin du conflit, il ferait preuve de volonté politique en allant, par exemple, jusqu'à abroger les lois discriminatoires à l'égard des Russes et des habitants russophones d'Ukraine, confirmant ainsi le sérieux de ses intentions de contribuer à une résolution définitive de la crise. Cependant, nous ne voyons pas cela. Nous voyons et entendons autre chose. Tous ces gens de l'administration présidentielle ukrainienne qui font le jeu de Zelensky. De son côté, nous n'entendons et ne voyons pour confirmer cela qu'une chose, une rhétorique guerrière, belliqueuse. Des appels à tuer chaque mois, comme Zelensky l'a déclaré, 50 000 militaires russes. Et d'autres déclarations monstrueuses. Le régime de Kiev a déjà prouvé à maintes reprises son incapacité à respecter ses engagements. Par exemple, au printemps dernier, vous vous en souvenez sans doute, Zelensky a soutenu verbalement le moratoire proposé par le président américain Trump sur les frappes contre les installations énergétiques de la Russie et de l'Ukraine. Il l'a soutenu verbalement, mais non seulement il n'a rien fait pour le respecter, mais il a en outre permis aux forces armées ukrainiennes de violer 136 fois le soi-disant cessez-le-feu énergétique. Voilà toute sa véritable nature. De la même manière, je le rappelle, Zelensky a agi à l'égard de l'initiative du président russe Vladimir Poutine sur un cessez-le-feu à l'occasion des Pâques orthodoxes l'année dernière, en 2025. À l'époque, les forces armées russes ont enregistré pas moins de 4900 violations de la part des forces armées du régime de Kiev. Voilà donc une réaction intéressante, pour ainsi dire, à la trêve proposée. Voilà, c'est tout. La déclaration de revenus de Volodymyr Zelensky pour l'année écoulée est apparue puis a disparu de l'accès public. Si le salaire de Zelensky est resté inchangé, ses revenus passifs ont, quant à eux, connu une croissance sans précédent. Les revenus locatifs sont devenus le principal moteur de cette croissance. Ils ont bondi de près de 80%. Par ailleurs, la famille Zelensky a considérablement augmenté ses avoirs sur ses comptes bancaires. Un nouveau compte important est apparu dans le portefeuille d'actifs, dans une banque suisse, avec un solde de 382 631 euros. Les soldes en grivnias ont également augmenté de manière significative. Chers auditeurs, vous avez écouté le projet Bélarusse dans la communauté mondiale. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure.
Des relations internationales et la sécurité, la géopolitique et des intérêts nationaux. Notre vision des problèmes actuels dans le projet Bélarusse dans la communauté mondiale.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la radio internationale Bélarusse de Minsk. Au studio, Tatiana Solodovnikova avec la revue des actualités les plus importantes de la presse bélarusse du 3 au 9 avril 2026. Le 3 avril, la conception de la sécurité énergétique a été actualisée. Le Premier ministre a signé un décret en ce sens, a indiqué le gouvernement. Ce document constitue la principale feuille de route à long terme dans le domaine de l'énergie. La nouvelle version tient compte d'évolutions économiques, juridiques et sectorielles notables, tant à l'intérieur du pays que sur le marché mondial des ressources énergétiques. Le Bélarus a toujours été le moteur du développement des relations au sein de l'OTSC et d'autres structures de l'espace post-soviétique, a déclaré le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Le 6 avril, le chef de l'État a rencontré le secrétaire général de l'Organisation du traité de sécurité collective. Altabek Masadikov occupe ce poste depuis janvier de cette année. Originaire du Kyrgyzstan, sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation du traité de sécurité collective a été soutenue par le Bélarus. Le président a souligné que le moment était propice pour discuter des questions militaro-politiques dans le cadre de l'OTSC D'autant plus après la vaste inspection de la préparation au combat des forces armées de la République du Bélarus menée récemment. Talat Bek Masadikov a quant à lui exprimé sa gratitude pour la rencontre et pour le soutien apporté par la partie biélorusse lors de sa nomination au poste de secrétaire général de l'ETSC. À l'issue de l'entretien, s'adressant aux médias, il a indiqué qu'un large éventail de questions avait été examiné en détail au cours des négociations avec le président biélorusse, parmi lesquels les aspects actuels de l'ordre du jour international, la dimension militaire des activités de l'ETSC, ainsi que les voies du développement futur de l'organisation. Le 6 avril, le ministère des Affaires étrangères du Bélarus a publié une déclaration concernant le blocage des comptes YouTube des médias biélorusses. Selon la déclaration, par sa décision, YouTube a effectivement bloqué l'accès de millions de citoyens et de compatriotes vivant à l'étranger à un contenu légitime et officiel. Il s'agit d'une violation flagrante de l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU ainsi que des principes fondamentaux de l'OSCE dans le domaine de la liberté des médias. Le silence assourdissant des structures internationales est frappant. Celles d'entre elles qui traditionnellement réagissent rapidement et bruyamment à tout cas, même les plus controversées, de restriction de la liberté d'expression dans des pays qui leur déplaisent, observent cette fois un silence démonstratif. C'est un exemple classique du deux poids, deux mesures occidentales. Les droits humains ne comptent que lorsqu'il s'agit d'une opinion qui arrange l'Occident. Le blocage des médias biélorusses sur YouTube a été condamné par la Fédération mondiale des journalistes. Le Bélarus est prêt à dialoguer avec la Lituanie, mais n'a pas l'intention d'accélérer les négociations. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Bélarus, Maxime Rijenkov. Nous avons clairement indiqué notre position il y a longtemps déjà, et nous n'en devions pas. Nous sommes prêts au dialogue, prêts à examiner toutes les questions qui intéressent nos citoyens, les citoyens des États voisins, les entrepreneurs des deux pays, et simplement les personnes qui ont besoin d'une frontière ouverte et de déplacement dans les deux sens pour des raisons familiales, professionnelles, culturelles ou humanitaires. Ce n'est pas nous qui avons fermé cette frontière. Ce n'est pas nous qui avons érigé cette barrière de sanctions. Nous sommes prêts au dialogue. Le ministre a qualifié les mesures inamicables prises par la Lituanie d'auto-isolement et d'auto-limitation vis-à-vis du grand espace eurasiatique. Le 7 avril, le ministre des Affaires étrangères du Bélarus, Maxime Rijenkov, a rencontré l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Mongolie, Batsukh Bayarsaykhan. Au cours des échanges, les deux parties ont constaté le caractère ouvert et amical des relations entre le Bélarus et la Mongolie, salué le haut niveau de leur coopération politique et souligné le potentiel considérable pour renforcer encore leurs liens économiques. Le premier vice-ministre des Affaires étrangères du Bélarus, Sergueï Loukachevitch, a rencontré l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Les deux parties ont examiné la situation actuelle au Moyen-Orient ainsi que les questions de coopération bilatérale. Ils ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration continue de la situation dans la région et souligné l'importance d'un cessez-le-feu rapide, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Au Musée national d'art se tient une exposition unique intitulée « L'exposition d'un seul chef-d'œuvre », le tableau de Marc Chagall, « La promenade ». Réalisée en 1916, cette œuvre est une pièce maîtresse de l'avant-garde mondiale et une toile emblématique dans la carrière du génie de Vitebsk. La promenade provient de la collection de référence du musée russe de Saint-Pétersbourg. L'exposition a pour partenaire général la Banque Sber, pour qui ce projet n'est pas seulement un acte de mécénat, mais aussi un pont culturel entre le Bélarus et la Russie, rassemblant les gens par l'intermédiaire de l'art. Le Bélarus et l'Azerbaïdjan, de nouveaux relais de croissance dans leur partenariat stratégique et des passerelles de coopération pour le long terme. L'usine automobile de Minsk livrera à l'Azerbaïdjan une centaine de kits de montage pour la production de véhicules communaux. Les efforts des présidents ont donné une impulsion puissante à la coopération entre les deux pays. Les projets de coopération ne se limitent pas à l'industrie. Ils concernent également la médecine, les produits pharmaceutiques, la construction et l'agriculture. La coopération ne se cantonne pas aux grandes entreprises. Elle se développe activement au niveau régional. Les échanges commerciaux ont dépassé le seuil des 500 millions de dollars. L'objectif stratégique est de doubler ce chiffre. Les bases sont solides. Le cadre juridique bilatéral entre le Bélarus et l'Azerbaïdjan compte plus de 150 documents. Le 7 avril, Minsk est devenu pour 4 jours la principale plateforme industrielle du pays. On débutait les salons internationaux, usinage des métaux, construction mécanique, soudage et coupage, Litmet Expo et protection contre la corrosion. Les participants viennent du Bélarus, de Russie, de Chine, de Turquie, d'Israël et de Corée du Sud. Plus de 200 exposants. Les thématiques couvrent l'ensemble du cycle de production, depuis les matériaux de structure jusqu'à la finition des pièces. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous écoutez la radio internationale Bélarusse de Minsk. C'était la revue des actualités les plus importantes de la presse biélorusse avec Tatiana Solodovnikova. À la prochaine et restez avec nous.